Bonjour Tiffaine et à demain.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous partons aujourd'hui explorer la nostalgie ambivalente du créateur de Mad Men, Matthew Weiner, à l'égard des années 60. C'est à l'âge de 35 ans et alors que tout réussissait à Matthew Weiner, mais qu'il ressentait en lui une fêlure, qu'il a eu envie d'explorer les drames intimes qui se cachent sous la surface de la réussite et a écrit cette étrange histoire sur une agence de publicité de Madison Avenue à New York, cette histoire devenue culte dans le monde de la télévision, dont nous parlons ici jusqu'à jeudi. Demain, l'universitaire Ariane Hudley sera dans ce studio. Elle nous racontera notamment son exploration des archives de Mad Men qu'elle a pu consulter plusieurs jours durant à l'université d'Austin au Texas où elles sont entreposées. Enfin jeudi, avec Fabiola Rocca, nous parlerons de New York, de la publicité, de la postmodernité telle qu'on peut l'interpréter dans la série, avant de retrouver Romain Huré qui évoquera la place des femmes dans cette œuvre. Et aujourd'hui, pour continuer à parler de cette grande fresque télévisuelle, nous sommes en votre compagnie. Nathalie Azoulay, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes romancière, prix Médicis en 2015 pour Titus n'aimait pas Bérénice. Vous avez publié en 2011 un livre intitulé Mad Men, un art de vivre, aux éditions de La Martinière. Mad Men, une série sur laquelle vous êtes tombée au moment où elle passait sur Canal+. Avez-vous tout de suite succombé quand vous l'avez vue pour la première fois?
Alors non, en fait, d'abord je l'ai vu un peu sur incitation, je ne l'ai pas vu toute seule. Et puis je voyais les couvertures de magazines s'enchaîner, acclamer la série. Et j'avoue qu'à chaque fois que ce genre de phénomène se produit, je me méfie un petit peu. Et puis là, un jour, on m'a proposé de faire ce livre. Et j'ai commencé à regarder. Alors à l'époque, il y avait que 4 saisons qui étaient en diffusion. Et j'avoue que j'ai été prise, mais tout de suite, par cette espèce de lamento... chromatique qui est Mad Men.
Donc c'est vraiment la vue qui vous a...
Ah oui, c'est cette espèce de fresque. Ouais, vous avez employé le mot. C'est vraiment une fresque au sens littéral du terme. Et j'ai été happée par ce tempo, par cette mélancolie. Et j'avoue qu'après, je n'ai pas lâché et que je n'ai pas du tout regretté de faire ce livre. Au contraire, il m'a beaucoup apporté.
Enfin, depuis votre enfance, quand même, vous baignez dans cet univers des séries télévisées.
Absolument. Et je pense que c'était une série faite pour moi parce que, en dehors de la série télévisuelle, il y avait aussi tout le cinéma qui a bercé mon enfance, à savoir celui de Hollywood des années 40 et qu'on retrouve évidemment dans cette série.
Alors vous êtes vous-même scénariste pour le cinéma et la télévision, vous auriez peut-être aimé travailler avec Matthew Weiner, ça vous aurait plu?
Alors je ne sais pas, parce que vous savez c'est un showrunner complètement contrôle fric, obsessionnel et sans doute un peu tyrannique. C'est ce qui fait d'ailleurs la qualité de sa série, c'est qu'il est derrière chaque détail et qu'il pilote vraiment toute la direction artistique de la série en dehors de l'écriture. Donc je ne sais pas quelle expérience c'est de travailler avec lui quand on est un auteur soi-même.
Alors un auteur, c'est ce qu'il est précisément. Vous-même, vous êtes agrégée de lettres, vous êtes normalienne. Est-ce que vous avez regardé cette série avec des yeux de femme de lettres, de littéraire, d'écrivaine?
Alors j'avoue que j'ai du mal à oublier tout cet aspect de moi, mais j'avoue que quand je l'ai découverte, la série, j'y suis allée sans malice et avec l'ingénuité de n'importe quelle spectatrice, parce qu'elle est très très prenante, parce que les personnages sont évidemment, comme dans beaucoup de séries, mais encore plus dans celle-ci, très attachants, très mystérieux, très mélancoliques, souvent dépressifs, et donc ils vous entraînent dans leur espèce de spirale à la fois très très jolie et haute en couleurs, mais finalement assez sombre, et je pense que l'addiction, elle passe aussi par ce fond un peu peu sombre qui vous attrape.
Ah, parce qu'il y a quand même addiction à cette série, qui est censée être une série moins basée précisément sur les artifices habituels qui mettent sous tension les spectateurs de série, les cliffhangers et ce genre de choses. On est davantage dans une série réflexive.
Réflexive et chronique, en fait. C'est-à-dire qu'on vit avec ces gens qui sont un groupe à la fois professionnel et privé. Et on passe donc nos journées et nos soirées avec eux. Mais finalement, le suspense est très court et il est très, très mince. Alors, il y a cette espèce de suspense relatif au héros principal. Qui est-il? D'où vient-il? Mais c'est une sorte de MacGuffin, hein, comme Hitchcock les aimait. Donc, finalement, on s'en fiche un petit peu. Et la révélation de cette trame-là, finalement, ne joue pas beaucoup dans le plaisir qu'on a à regarder la série.
Mmh. D'où vient le plaisir, alors?
Alors, le plaisir vient de la construction des personnages, de la sophistication visuelle de l'objet qui, quand même, est très, très tenue, très, très tissée, très complexe. Et puis, de cette espèce de course un peu vers le vide qu'on sent tout de suite démarrer, que le générique nous annonce d'ailleurs, et à laquelle on veut participer de manière peut-être un peu masochiste, en sachant que de toute façon, on va un peu à notre perte avec eux. Mais ce vertige nous prend, il y a sans doute le plaisir de baigner dans cet univers vintage des années fin 50, début 70, puisqu'on traverse toute la décennie des années 60. Et puis de profiter de ce temps d'innocence qu'est Mad Men aussi, où tout le monde fume et boit du matin au soir et où tout le monde est en pleine forme.
Ouais. Alors oui, c'est vrai que durant les 4 ou 5 années durant lesquelles sont censées se dérouler l'action, Don Draper, qui a une hygiène de vie tout à fait réprochable, garde une forme olympique. Alors, vous avez parlé d'Hitchcock, mais vous citez aussi d'autres références cinématographiques. C'est vrai qu'elles sont très présentes hein, dans Mad Men. Par exemple, Stanley Kubrick. Qu'est-ce que vous voyez de Stanley Kubrick dans cette série? Ou alors, à un opposé, puisque vous citez aussi Wong Kar-wai, qu'est-ce qui vous semble venir de l'un ou l'autre de ces cinéastes?
Alors pour ce qui est de Wong Kar-wai, il y a évidemment cette fresque sur l'amour qui est toute drapée de textiles plus graphiques les uns que les autres, avec encore une fois ce tempo très lent, très envoûtant, même un peu durassien parfois, qu'on voit chez Wong Kar-wai et qu'on retrouve chez Mad Men dans toutes les aventures extra-conjugales que ce Don Draper vit et qui, loin d'être enlevées et légères, sont toutes habitées par la gravité et par la menace de l'échec. C'est-à-dire, encore une fois, à chaque fois, il y a ce vertige un peu donjuanesque hein, qui est le sien. Et qui prend ce tempo très Wong Kar-wai. Alors pour ce qui est de Kubrick, j'imagine que les références sont plutôt de l'ordre du placement de la caméra, des plans. Il joue beaucoup avec la contre-plongée.
Donc quasiment tous les plans sont en contre-plongée, peut-être pour faire émerger une distance entre nous, spectateurs, et ces personnages qui ne sont pas exactement à notre niveau.
Il y a peut-être de ça, c'est-à-dire qu'il y a sans arrêt la reformation du théâtre qu'est Mad Men, mais il y a aussi, je crois, l'omniprésence de cet espace qui est celui du bureau, des bureaux de l'agence de publicité, qui sont filmés soit du point de vue de ces plafonds, soit du point de vue de ces bureaux, de ces moquettes, et aussi de ces ascenseurs. C'est-à-dire qu'il y a comme ça un travail qui est très mis en espace et qui, à mon avis, fait partie de la manière d'envelopper le spectateur et de l'embarquer.
Mmh. Parfois, la porte de l'ascenseur s'ouvre et Don Draper regarde le fond de la cage car l'ascenseur n'est pas là et il se sent happé par le vide. Vous avez prononcé ce mot, en effet, tout à l'heure, de vide. Et peut-être que dans le cadrage, dans la manière de filmer aussi, on sent tout le vide intérieur de ces personnages-là.
Oui, oui, et ils sont tous finalement dans des espèces de boîtes, hein, qui sont des belles boîtes, puisque ils sont sur Madison Avenue, et ils vivent tous le rêve américain à leur niveau. Donc finalement, il y a ce dispositif de représentation spatiale qui est plutôt flatteur, mais au fond, c'est vrai que toutes ces boîtes sont menacées par le vide et par la chute.
Oui. Alors vous, Nathalie Azoulay, vous avez aussi écrit un roman, Les spectateurs, qui se passe en partie dans les années 60. C'est peut-être d'ailleurs le travail de Mad Men, le travail sur Mad Men, qui vous a inspiré, dans quelle mesure?
Alors, vous voyez, quand j'ai écrit ce livre, c'était en 2011, et mon livre Les Spectateurs est paru 7 ans plus tard. Donc, le temps d'infusion a été très long, et je pense qu'il a même été en partie inconscient. Je me suis pas du tout rendu compte de la manière dont cette série m'influencerait. Mais de fait, elle m'a influencée.
C'est une série à infusion lente. Hein.
Oui, à infusion lente, comme son tempo. Sans doute parce que cette série, qui donc se déroule dans les années 60, est un hommage au cinéma des studios hollywoodiens, dont la fin se passe dans les années 50, à la fin de la décennie des années 50. Et Matthew Weiner le dit, hein, il dit qu'il veut aussi donner à la télévision la place qu'elle a prise aux côtés du cinéma en faisant ce relais entre cinéma et série télé. Et de la même façon, moi j'ai écrit ce roman Les Spectateurs où la télévision est centrale et où le cinéma passe à travers la télévision au sein des membres d'une famille et d'enfants qui n'ont pas connu les heures glorieuses du cinéma hollywoodien.
Alors, dans votre roman, on voit donc De Gaulle à la télévision. C'est un certain 27 novembre 1967 qui vous a particulièrement marqué. De Gaulle, on ne le voit pas dans Mad Men. En revanche, il y a tout un épisode consacré à l'assassinat de Kennedy. Je vous propose d'en écouter un extrait.
Mais vous ne regardez pas.
Quelqu'un a tiré sur le président.
Quoi ?
La capote de la voiture présidentielle était ouverte. Les gardes du corps ont sorti leurs armes, mais c'était trop tard.
C'est pas vrai.
Le président s'était déjà effondré à l'arrière de la voiture. Le gouverneur Connally a été grièvement blessé lui aussi. Il est d'abord tombé sur la gauche avant de s'écrouler entre les tiers.
C'est affreux. Ils l'ont tué.
Chut. Qu'est-ce qui se passe ici ?
Bien sûr, cela nous fait tous penser à cette funeste journée d'avril 1945, lorsque Franklin Delano Roosevelt...
Excusez-moi, Chet, mais nous venons de recevoir une dépêche de Dallas. Selon deux prêtres qui étaient auprès du président Kennedy, il aurait succombé à ses blessures. Nous n'avons pas de confirmation officielle pour l'instant. Seulement cette dépêche qui vient...
Est-ce qu'il va bien ? Il est mort, ils viennent de le dire.
Le président affirme qu'il est mort des suites de ses blessures. Encore une fois,
Seigneur.
Ce n'est pas officiel. Mais ce sont les seules nouvelles que nous ayons. Le président pourrait avoir perdu la vie dans ses attentats. Cela vient de tomber sur nos téléscripteurs.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors évidemment, cet extrait ne rend pas tellement justice au jeu des acteurs, puisque c'est une version doublée qu'on a choisi de vous passer aujourd'hui dans le cas d'espèce. Est-ce que vous avez une réaction sur cette scène-là ? Qu'est-ce qu'elle vous inspire ?
En fait, si je me souviens bien, et on voit la subtilité quand même scénaristique de la série à cette occasion, c'est que la mort de Kennedy intervient évidemment comme événement majeur pour des Américains, mais surtout comme révélateur pour Betty Draper, qui est donc la femme du héros, révélation pour elle du fait qu'elle n'aime plus son mari. Donc en fait, il a cette façon de tisser la grande histoire, le grand événement, avec la petite, et de ne jamais se servir de manière trop grossière de sa fresque comme fresque historique. Il est beaucoup plus habile que ça.
Et alors comment précisément vous qui avez de la même manière utilisé des événements historiques qui se passent dans les années 60 pour écrire votre roman Les Spectateurs, vous qui êtes né peu de mois après Matthew Weiner, je ne vais pas dire exactement quand, ce serait indiscret, comment est-ce que vous pouvez vous mettre dans la tête de Matthew Weiner et essayer de comprendre un petit peu son rapport avec les années 60 et puis cette façon de replonger dans cette décennie qui était une décennie qu'il n'a pas vraiment connue, comme vous, puisque vous étiez tous les deux un peu trop petits pour la comprendre.
Oui, mais c'est une décennie qui, pour lui comme pour moi certainement, est la décennie de l'âge adulte de nos parents et de nos parents quand ils nous ont eus. Donc en fait, on est à la recherche sans doute d'un pan d'histoire qui manque et qui manquera toujours, qui est celui de ce temps d'avant ou de ce temps pendant, mais duquel on n'a plus vraiment conscience. Et on essaye donc de reconstituer. Je sais que Matthew Weiner, il le disait beaucoup dans ses interviews, il était obsessionnel sur les détails. Par exemple, il cite cité ce détail dingue, où il voulait que le revêtement d'hôpital dans l'un des épisodes soit exactement le revêtement d'hôpital qu'il avait connu quand il était allé à l'hôpital petit avec ses parents. Et il était comme ça à la recherche des détails de son enfance qu'il avait marqués, qui étaient des mini-détails, qui sont sans aucune importance, mais qu'il voulait reconstituer d'une manière comme ça obsessionnelle. Alors pour ma part, dans mon roman, la famille que je mets en scène n'a rien à voir avec la mienne, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas entendu parler de cette conférence de Gaulle dans ma famille. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est de revenir sur des événements majeurs qui ont sans doute perturbé, alors qu'on n'en a pas parlé. Et je suis à la recherche des traces de cette perturbation.
C'est aussi une enquête sur l'époque des parents, pour essayer de comprendre les parents.
Et oui, et pour essayer de comprendre ce phénomène qui est arrivé à tous les enfants, mais que personne, qu'aucun enfant n'a à sa disposition, à savoir la jeunesse de ses parents.
C'est Mad Men, le temps de l'enfance retrouvée, un petit peu comme Proust a écrit La recherche du temps perdu. Est-ce qu'on peut faire un lien, même très très lointain, entre ces deux grandes fresques ?
Peut-être qu'il y a de ça, et c'est vrai qu'il y a une tentative de retracer, de reconstituer. Mais je crois que ce qui compte aussi beaucoup pour ce qui est de Mad Men, c'est qu'il a reconstitué une décennie qui aurait dû être la décennie du bonheur. Pour aller vite, c'est-à-dire que on était comme ça à l'avènement de la société de consommation. Il y avait des guerres, certes, mais elles étaient sur des fronts éloignés, et donc on aurait dû assouvir tous les désirs. C'était le temps de la libéralisation des mœurs aux États-Unis, etc. Et pourtant, c'est une série de désenchantés.
En tout cas, c'est un phénomène culturel très important, et ça a remis un petit peu à la mode cette décennie 1960, ne serait-ce que dans la mode. Il y a eu un retour des lunettes à monture d'écaille, les chapeaux de feutre aussi sont revenus, dit-on. Quelle vous semble être l'importance de cette série sur un plan esthétique pour ceux qui l'ont vu durant les années de sa diffusion ?
Alors en effet, sur le plan de la mode, il y a eu beaucoup d'incidences. Parce que les marques de mode sont toujours friandes d'accessoires et de phénomènes comme ça très très visibles et affichés. Donc il y a eu plein de marques qui ont fait des collections Mad Men, hommes et femmes.
Même Vuitton, je crois.
Oui, il y a eu cet opportunisme auquel on est habitué, hein, qui fait aussi la mode. Alors de manière plus subtile, je pense que cette série a modifié quand même l'écriture des séries télévisées. Et il y a par exemple une série que j'aime beaucoup et qui est tout à fait contemporaine, celle du Bureau des légendes, qui doit beaucoup à Mad Men, parce que finalement, on prend un groupe de personnages qui sont liés professionnellement, qui passent leur vie dans des bureaux, qui passent de salles de réunion en couloir, en bureau individuel, et tout ça dans un registre sonore très bas, très feutré, très murmuré, beaucoup de silence, comme dans Mad Men. Et je pense que Éric Rochant a dû beaucoup aimer cette série. Je pense qu'il l'a d'ailleurs déclaré.
Même s'il n'y a pas de violence en apparence dans Mad Men, il n'y a jamais de scène de violence comme il peut y en avoir dans le Bureau des légendes.
Non, c'est vrai, il n'y a pas de front. Il y a des batailles qui sont celles des campagnes publicitaires entre les publicitaires et les clients. Ou alors il y a des fronts privés, conjugaux. Mais en effet, il n'y a pas de sang. Donc c'est d'un autre ordre. Mais dans l'écriture dramatique et dramaturgique, je pense que la série a influencé beaucoup d'auteurs.
Et puis finalement, on boit aussi beaucoup plus chez les publicitaires que chez les espions.
Je te parie que la compagnie quotidienne de ces bouteilles attire plus de monde dans la pub que n'importe quel salaire de rêve. C'est ce qui m'a attiré. Apprécie-la, alors.
Je l'apprécie autant que possible.
Tu parles. Tu sais pas boire. Comme tous les gars de ta génération, d'ailleurs. Vous buvez pour les mauvaises raisons. Ma génération. On boit parce que c'est bon. Parce que c'est plus agréable que d'enlever sa cravate. Parce qu'on mérite de boire. On boit parce que c'est ce que font les hommes.
On voit beaucoup de gars de ta génération qui sucrent les fraises.
Je plaisante pas. Vous, ces idées noires, mélancolie et angoisse, vous passez votre temps à penser une plaie imaginaire.
Pas toujours imaginaire.
Tu vas me faire pleurer.
Peut-être que ça nous met plus mal à l'aise que vous de ne rien contrôler.
Pardon.
la compagnie des auteurs sur France Culture. Alors l'alcool est omniprésent, Nathalie Azoulay, dans la série. Ça fait partie de cet art de vivre que vous décrivez dans votre livre.
Alors, certainement, parce que le premier épisode de la première saison s'ouvre sur le problème que va poser le tabac dans les campagnes publicitaires. Donc il y a à la fois une conscience des dangers qui pèsent sur la santé et qui sont dus au tabac et à l'alcool, et en même temps une forme d'innocence et d'opiniâtreté et d'acharnement à en consommer qui réjouit, je pense, le spectateur d'aujourd'hui qui n'a plus le droit de faire tout ça de manière impunie et qui se dit que dans Mad Men, il y a quelque chose comme un âge de l'innocence.
Mais justement, on n'arrête pas de comparer, en regardant cette série, l'époque actuelle avec les années 60, et on se demande qu'est-ce qui était mieux et qu'est-ce qu'on fait mieux au contraire aujourd'hui. Alors, de manière assez évidente, on a plutôt tendance à trouver que dans Mad Men, il y a tout de même beaucoup de problèmes. Par exemple, l'écologie est quelque chose qui est totalement ignoré dans la série. Je ne sais pas si vous avez en tête l'épisode du pique-nique, par exemple.
Mais qui est une forme de tabou majeur. C'est-à-dire que, en effet, la famille pique-nique et ils laissent leurs déchets sur la pelouse et ils jettent leurs canettes et leurs sachets, leurs plastiques, etc. dans le parc. Et cette scène, elle est énorme, je trouve. C'est-à-dire que pour nous autres, soucieux d'écologie et auxquels on martèle tous ces messages, il y a quand même une forme d'innocence. À la fois, on est choqué parce que ça ne se fait pas et que ce n'est plus possible. Et en même temps, il y a une forme d'innocence, comme si il n'y avait pas de danger à faire ça.
C'est les années 60 qui festoient et les années 2000 qui trinquent, écrivez-vous.
Oui, il y a un peu de ça, parce que nous, on ne peut pas regarder tout ça avec l'espèce d'innocence dont ils jouissent tous. Alors, on dit que le tabac, c'est dangereux, on dit que l'alcool, c'est dangereux, et pourtant, comme je disais, ils en consomment beaucoup et tout le temps. Donc, comme si ça n'était pas dangereux, et personne n'est malade.
Oui. Enfin, dans la série.
Dans la série, personne n'est malade. Les médecins examinent leurs patients en fumant. Il y a des scènes mémorables de cabinet de gynécologue avec le médecin qui fume pendant l'examen. Et donc, tout ça est comme exagéré, outré, mais à la fois pour nous faire passer le message que c'est terminé, que maintenant, on ne peut plus faire ça, et quand même que c'était bien de pouvoir le faire.
Mais c'est pour ça que c'est une série sur les années 60, mais qui a vraiment un œil contemporain. On n'aurait pas fait cette série dans les années 60 sur l'époque qui leur était contemporaine.
Oui, bien sûr, mais en même temps, quand vous voyez des films aujourd'hui, je ne sais pas, de Claude Sautet, par exemple, dans les années 70, où il n'y a aucun message, ils fument, mais tout ce qu'ils peuvent à l'image. Et pourtant, il est contemporain de ces films. Donc, il y a à la fois, évidemment, un point de vue qui est un point de vue des années 2000, mais je ne pense pas que ce soit un point de vue de dénonciation. C'est un point de vue qui est plus complexe et plus ambivalent que ça.
Et que vous définiriez comment alors ? C'est aussi une empathie par rapport à ces personnages-là, malgré tout leurs défauts, leur racisme, leur misogynie parfois, même souvent, et puis leur manque d'hygiène corporelle.
Oui, il y a une empathie, il y a une forme d'envie pour cette époque qui est révolue. Évidemment, si on fume et si on boit toute la journée autant qu'ils le font, c'est que quelque chose ne va pas. Donc forcément, il y a une forme de tendresse pour tous ces malaises ambulants qui animent la série. Mais je pense que surtout, il n'y a pas vraiment de message. Je ne pense pas qu'il y ait un message d'un seul tenant. Je pense que c'est beaucoup plus subtil et léger que ça.
C'est pour ça qu'on peut la revoir finalement. Vous l'avez vu souvent ? La revue ?
Oui, et je revois quelques épisodes comme ça de temps en temps parce qu'encore une fois, moi, ce que j'aime surtout dans cette série, c'est son tempo, c'est sa lenteur et c'est le sentiment qu'on a l'impression de voir des personnages qui glissent et qui murmurent. Et ça, c'est très agréable.
Alors, vous avez écrit, Nathalie Azoulay, ce livre Mad Men, un art de vivre, mais il faut expliquer aux auditeurs que c'est un beau livre avec beaucoup de photos. Et c'est un livre qui est une œuvre d'art ou en tous les cas qui se range dans le registre, par exemple, des catalogues d'exposition. Parce que précisément, dites-vous, Mad Men, c'est une œuvre d'art et c'est une œuvre d'art qui est avant tout graphique.
Oui, c'est une œuvre qui est très travaillée du point de vue graphique, du point de vue visuel. où tous les détails sont vraiment très minutieusement abordés et traités, où rien n'est laissé au hasard. Je parlais du revêtement du sol de l'hôpital. On peut parler des verres qu'utilise le héros, qui sont toujours les mêmes. Hein, pendant, je crois, la plupart des saisons, il y a un changement à un moment donné qui est un changement remarquable.
Mais lui garde les anciens verres. Et c'est là
oui,
où
c'est
ça définit
comme personnage. Et c'est l'agence qui renouvelle son stock de verres. Mais lui garde les siens parce qu'ils deviennent finalement assez iconiques, même pour lui-même. Et à la fois dans les costumes, il y a un soin qui est très grand qui est apporté à l'ensemble des costumes. Chaque épisode requérait à peu près 200 costumes, je crois. Et le budget était faramineux.
Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Alors Nathalie Azoulay, votre sous-titre « Mad Men, un art de vivre » signifie-t-il que la série constitue une critique de l'obsession moderne et contemporaine de l'art de vivre qui commence, en tout cas qui s'amplifie justement dans les années 60-70, ou est-ce qu'au contraire il n'y a pas une célébration aussi de cet art de vivre qui forcément est un petit peu consumériste, mais qui aussi se retrouve dans certains objets qui sont des objets de beauté aussi. Et le graphique de cette série le dit assez.
Mais je crois qu'il y a les deux, en fait. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une célébration d'un art de vivre et une célébration du désenchantement que la société de consommation ne peut pas juguler et ne pourra jamais. Il faut jamais oublier qu'on est dans l'univers de la publicité, donc où on passe ses journées et son temps à vendre du rêve, à vendre de l'apparence, à vendre de l'iconique. Hein. Et les personnages des publicitaires, s'ils manipulent le désir des consommateurs, sont eux-mêmes manipulés et un peu pris au jeu de ce qu'ils racontent et de ce qu'ils vendent. Et donc, s'il est vrai qu'il y a de la beauté autour d'eux à travers ces objets, par exemple, le patron de l'agence a un tableau de Rothko dans son bureau. Donc là, il y a sans doute une vraie célébration de la beauté esthétique et de l'art de la peinture. Mais je pense qu'il y a vraiment cette double dimension qui est à l'œuvre dans toute la série, à la fois ce culte des objets et puis cette façon de ne pas en être dupe.
Alors dans les décors, il y a des objets qui sont d'époque, mais il y a aussi des objets qui sont plus anciens. En revanche, ils ont fait très attention à ce qu'il n'y ait pas d'objets qui soient anachroniques. Ces décors, qu'est-ce qu'ils signifient ? Il y a un moment dans votre livre où il y a une pleine double page avec une photo d'un bureau et on a l'impression que le décor, c'est presque le message, pour parodier McLuhan. Est-ce que c'est votre sentiment aussi ? Est-ce que c'est pour ça que vous avez voulu vous intéresser et reproduire en si grand ces décors ?
Oui, c'est-à-dire que ces open space avec ces kilomètres de secrétaires qui ont des machines à écrire et qui tapent toute la journée, ça fait partie du message. C'est-à-dire qu'il y a aussi une vision de ce que c'est que les femmes et le travail des femmes à cette époque-là, même dans une agence de publicité. Et il y a quelques personnages qui arrivent à s'extraire de cette condition-là et qui font partie des personnages héroïques de la série. Mais à l'exception de ces personnages-là, il y a quand même des messages qui passent, oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas si moi j'ai voulu écrire sur cette série à cause de ces décors, mais ce qui m'a intéressé, c'est la sophistication obsessionnelle de l'auteur, en fait, qui est peut-être une forme d'analogie avec celle qu'on peut imaginer à un romancier. Mais vous le disiez, c'est très juste, c'est-à-dire que les objets n'arrivent pas dans la série tout de suite. Par exemple, tout le design des chaises, des bureaux, de tout ce qui est objet de décoration, est un design qui vient surtout des années 50. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait l'erreur de prendre des objets qui viennent de sortir, en fait. Il voit comment les objets s'installent dans la vie des gens et comment ils deviennent des références.
Parfois, ils s'installent bruyamment. Je ne sais pas si vous vous souvenez du chip and dip, qui est un plat à hors d'œuvre. d'œuvre que la famille Campbell, enfin les deux mari et femme, reçoivent pour leur mariage et qui crée une scène de ménage. Je ne sais pas si vous avez en tête cet objet qui revient après quatre saisons plus loin et qui est un symbole finalement de la domination masculine dans le couple. Enfin, oui, les objets ont un sens.
Il y a des objets événements, il y a des objets dramatiques, c'est-à-dire qui font partie de la dramaturgie et qui aident le scénario à aller dans un sens ou dans un autre. Mais la plupart des objets, il faut le dire quand même, font partie du décor. Mm-hmm. On peut ne pas les voir si on ne les regarde pas.
Et les vêtements, alors ?
Alors, les vêtements, c'est intéressant parce que Matthew Weiner a travaillé avec une directrice artistique qui s'appelle Jenny Bryant, qui elle-même a travaillé avec des ouvrages de référence, avec des modèles de référence. Hein. Je pense qu'elle avait en tête des gens comme Edith Head, qui était des costumières hollywoodiennes très célèbres. Et elle a travaillé aussi en chinant et en fouillant ses propres archives et celles des autres scénaristes où il y avait beaucoup de femmes. Donc, il y a à la fois un mélange d'objets personnels et d'objets trouvés dans le commerce ou dans les archives qui font cette garde-robe absolument splendide de Mad Men. Mais comme les objets de décoration, elle est très finement distillée. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs époques qui passent. On commence avec le new look de Dior, donc en 47, alors que la série commence en 59. Mais il y a cette première référence. Et puis, plus on va dans la fin des années 60, et plus il y a les mini-jupes, il y a du Saint-Laurent qui arrive, donc ils ont été aussi là d'une manière très juste. Ils ont comme ça fait défiler toute la gamme de la création vestimentaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a travaillé vraiment comme une costumière hollywoodienne, c'est-à-dire en donnant aux personnages, surtout des femmes, une psychologie qui passait par le vêtement. Donc on voit bien qu'elle a travaillé Betty Draper comme une Grace Kelly, hein. Bon, c'est assez souvent dit, mais jusque dans les détails, c'est-à-dire c'est pas uniquement ses vêtements, c'est que elle l'a fait naître à Philadelphie comme Grace Kelly, elle est allée à l'université de Bryn Mawr qui a été celle de Grace Kelly, et finalement à un moment donné, le père de Betty dit à Don que il l'a déçu parce qu'il n'a pas donné à sa femme une vie de princesse. Donc en fait, Grace Kelly infuse le personnage vraiment des pieds à la tête et au-delà du vêtement. Après, elle a travaillé la secrétaire Ruth John comme Sophia Loren ou encore Peggy Olson. Elle lui a donné à Peggy Olson une garde-robe de plus en plus féministe, en fait, hein, jusqu'à la mini-jupe de Mary Quant à la fin des années 60. Donc tout ça est travaillé très minutieusement, encore une fois, et avec beaucoup d'intelligence et sans que jamais le message ne soit lourd.
Mmh. Et Don Draper, il se déboutonne jamais. Est-ce que c'est aussi signifiant? Bon, il se déboutonne jamais tous, hein, d'ailleurs.
Oh, il se déboutonne pas au sens où il ne révèle pas son mystère dont on se fiche un petit peu, en fait. Hein. Mais il est travaillé aussi, lui, sur le plan de la garde-robe, comme un héros taiseux. Et en effet, soupçonnable d'imposture. En fait, l'un des personnages clés qui a inspiré Don Draper, ça a été le personnage de Cary Grant dans La mort aux trousses. Voilà, qui est un personnage qui est pris pour quelqu'un d'autre et qui passe sa vie à être traqué comme celui-ci. Mais il y a d'autres références qui jouent, comme celle de Gregory Peck ou d'autres acteurs hollywoodiens. Bon, et à l'arrivée, on a un personnage qui est plutôt en gris et blanc tout le temps, avec de temps en temps un polo. Bon, mais ce qui est sympa aussi dans la série, c'est la manière dont il finit à la fin donc des années 60 en Californie en transe avec d'autres yogis, je sais pas si vous vous souvenez
en posture de yoga, voilà. En refaisant une publicité qui est la publicité pour Coca-Cola,
exactement, mais en un peu plus solaire.
Nathalie Azoulay, on va continuer à évoquer l'univers de Mad Men dans quelques minutes, ce sera juste après les conseils de lecture de Georges Marc Habib.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Georges Marc Habib de la librairie de l'Atelier rue du Jourdain dans le 20e arrondissement de Paris. Bonjour Georges Marc.
Bonjour.
Entre deux lectures, avez-vous eu le temps de regarder Mad Men?
Écoutez, moi j'avoue ma réticence à la série. La série en général. Et donc n'avoir jamais essayé de regarder Mad Men. Maintenant, en écoutant Nathalie Azoulay, on a envie d'une seule chose, c'est de se précipiter au moins sur la première saison.
Bon, ça c'est bien, ça vous donne envie. Alors vous venez nous donner quelques conseils de lecture dans l'actualité. Pour commencer, vous voulez nous parler du dernier roman de Vincent Borel, La vigne écarlate, c'est chez Sabine Vespizer.
Et oui, Vincent Borel, moi c'est un auteur que je suis depuis longtemps, que j'avais découvert avec un magnifique roman qui s'appelle s'appelle Antoine et Isabelle, ou avec son dernier roman paru l'année dernière, Fraternel, toujours édité chez Sabine Vespizer. C'est un auteur que j'aime bien parce qu'il met beaucoup d'énergie et beaucoup de passion dans ce qu'il écrit. Et là, il revient sur un domaine qui lui plaît particulièrement, qui est la musique. Et il va nous parler, il va nous raconter l'histoire de cet étonnant compositeur, Anton Bruckner, qui est un organiste allemand de l'époque, de la grande époque viennoise, autrichien même plutôt qu'allemand, et qui, tout le long de sa vie, n'a eu qu'une grande, énorme passion, c'est pour son instrument, et a construit quand même autour de cet instrument 8 grandes symphonies qui, malheureusement, ont été très très peu jouées de son vivant, ou en tout cas, sans connaître le succès. Vincent Borel, il a une passion pour la musique, et ce qui est assez génial, qui moi, il ne connaît pas grand-chose en musique, et je l'avoue, c'est que, malgré tout, quand il vous donne à lire la musique, et ben vous entendez la musique avec lui, même si vous ne la connaissez pas. Mmh. Ça veut dire qu'il donne le lecteur toute sa passion avec une générosité qu'on voit rarement. Voilà, moi, franchement, c'est Anton Bruckner, c'est un personnage magnifique, gargantuesque, avec des gros appétits. Là, vous voyez, on parlait de l'alcool et des cigarettes. Ben, lui, c'est les cigares et énormément de bière et beaucoup de bouffe. Donc, il finit à la fin de sa vie énorme et etc. Donc, c'est toute la passion chez Anton Bruckner, sauf la passion amoureuse, parce qu'il avait qu'un seul défaut, entre guillemets, c'est qu'il n'a jamais réussi à aller vers l'amour charnel.
Alors on change un peu d'époque, on change de région aussi, puisque vous allez nous parler du dernier roman de Célia Oudard. Ça se passe à côté de votre librairie, hein. Ça s'appelle Villa Crimée.
Et à côté de chez vous aussi, je crois.
Je ne sais pas, en tout cas c'est pas très loin de chez vous.
En tout cas c'est pas très loin de la librairie. Villa Crimée, c'est un projet là aussi, donc commande de quelqu'un, hein, d'une architecte à qui on a demandé de réhabiliter un petit quartier, enfin une impasse on va dire, dans cette rue de la Crimée. Et cet architecte est venu voir Célia Oudard en lui demandant écrire autour de ce chantier. Donc, elle s'est emparée. C'est un texte très fragmentaire. C'est tout petit, hein. Ça fait 100 et quelques pages. C'est vraiment des petits fragments de pensée, soit de Célia Oudard, soit des réflexions autour de l'architecture, hein. Célia Oudard, c'est aussi une passionnée d'architecture. Son dernier roman, Tout un monde lointain, était tout autour d'une villa, comme ça, qui s'appelait E1027, hein, qui était paru en 2017 chez POL aussi. Elle nous parle de ce Paris incroyable qu'on pense disparu, mais en fait qui existe toujours, hein, qui est ce Paris, on va dire, des petits moments ou des petits espaces, on va dire, un peu clos et un peu généreux où la vie apparaît. Et donc, dans ce chantier, dans ces maisons qui sont en train de se reconstruire, dans ces appartements qui se reconstruisent, dans ces ateliers aussi qui se reconstruisent, elle imagine la vie des gens qui vont y arriver parce qu'elle ne le connaît que sous forme de chantier. C'est assez magique, poétique et très, très, et très, très beau.
Et c'est chez POL, pour terminer, un roman noir, Georges Marc.
Et ben, vous voyez, on parlait des années 60 avec cette noirceur, cet alcool, cette cigarette, cette dépression, on va dire, presque très américaine. Là, on est avec James Crumley dans un texte qui s'appelle Fausse Piste, réédité chez Gallmeister. C'est un texte qui avait été écrit en 75, mais qui nous rappelle vraiment les romans noirs des années 50 à la Chandler. Il nous met en scène un détective privé, Milo Dragovic, qui est un héritier, mais qui n'a pas encore hérité. Donc, il n'héritera de cette fortune paternelle qu'à ses 53 ans. Donc, en attendant, qu'est-ce qu'il fait? Il est détective privé, avec une spécialité, c'est les divorces au tort. Malheureusement, arrive le divorce amiable dans son état, et donc, du coup, c'est la faillite. Et heureusement, arrive une jeune femme qui va l'emmener à enquêter sur la mort accidentelle, dit-elle, ou meurtrière, en tout cas, de son jeune frère d'overdose. C'est un vrai roman noir. Le héros, évidemment, détective, alcoolique au dernier degré, qui n'est pote qu'avec des alcooliques au dernier degré. C'est américain.
Merci Georges Marc Habib, de la librairie de l'Atelier, rue du Jourdain, dans le 20e arrondissement de Paris. À bientôt.
Merci.
C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture au deuxième jour de notre cycle consacré à la fresque des Mad Men, les hommes fous de Madison Avenue. Nous sommes avec l'écrivaine Nathalie Azoulay et voici un extrait de cette série de Matthew Weiner dans lequel le personnage de Betty raconte sa rencontre avec Don Draper qui deviendra son mari. Elle était à l'époque mannequin et faisait des photos pour des manteaux de fourrure.
I was a model, you know. In fact, I met Don on a photo shoot. I was wearing this Russian blue fox coat. He was just a copywriter at the fur company. I remember.
Je me souviens qu'il a vu que je rechignais à rendre le manteau. Ça, c'était toujours le plus dur. Il voulait me revoir. Il était sûr de lui. C'était séduisant. J'ai dit non. Et 3 semaines plus tard, j'ai reçu ce joli manteau chez moi. Je me demande grâce à quelle ruse de Sioux il l'a eu. À la suite de ça, je n'ai retravaillé que 2 fois, ou peut-être 3, avant qu'on ne se fiance. Et je suis tombée enceinte. C'est toujours un cauchemar d'élever des enfants à Manhattan. Alors on a déménagé à Ossining. Tout à coup, j'ai eu l'impression d'être si vieille.
Alors Betty, Nathalie Azoulay, c'est la femme qui a commencé à travailler d'abord comme mannequin avant que Don Draper ne fasse d'elle une femme au foyer. Donc elle est un petit peu forcée quand même à rester chez elle.
Alors non seulement elle a travaillé, mais avant ça elle est allée à l'université de Bryn Mawr, qui est une université uniquement pour les filles, mais qui dispensait un enseignement assez progressiste. Donc ça formait plutôt les filles à faire autre chose que de se marier et avoir des enfants. Donc elle aurait dû avoir un autre destin que celui qu'elle a finalement eu, mais elle s'est fait avoir par le manteau de fourrure. Et ensuite, elle ne va pas cesser de déchanter, puisque c'est une femme qu'on voit déprimée de plus en plus, sombrée dans le vin rouge. Elle ne boit pas de scotch, elle, mais elle boit du vin du matin au soir. Et c'est une mère au foyer plus que déficiente. Hein. Elle s'occupe très peu de ses enfants. Ils sont soit avec la nounou, soit devant la télévision. Et finalement, comme elle est trompée à peu près 5 fois par semaine par son mari, elle passe sa vie toute seule à l'attendre.
Qui reste une femme magnifique quand même.
Elle est splendide, donc elle a vraiment tout pour être heureuse. Elle a la belle maison, elle a les beaux enfants, elle a le beau mari, mais elle est désespérée. Et finalement, elle va se rendre compte avec l'assassinat de Kennedy qu'elle n'aime plus son mari. Elle va en changer, elle va épouser un autre homme, mais son destin ne va cesser d'être malheureux parce que elle va prendre des kilos. Alors à un moment donné, même dans le script de la série, on l'appelait Fat Betty parce qu'elle était devenue obèse, enfin le personnage. Et puis elle va finir mal alors qu'elle a repris ses études, qu'elle veut échapper à son destin de femme au foyer. Elle reprend ses études en se disant que voilà, elle va reboucler avec le début de sa vie, mais la vie ne lui en laisse pas le temps et elle meurt d'un cancer. Et je pense, sauf à dire une bêtise, que c'est la seule des personnages de Mad Men à subir cette maladie alors qu'ils devraient tous être morts.
Et le péché originel finalement de Betty, c'est à la fois d'avoir succombé au manteau de fourrure et puis de s'être dit que finalement sur le papier, on pourrait même dire sur le papier glacé, avec Don Draper qui est également très beau, ils formaient un beau couple.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a un narcissisme et individuel et conjugal qui s'exerce vraiment très fortement chez les Draper, mais qui ne dupe personne et à commencer par eux-mêmes. Et qui finalement, oui, se termine assez mal. Mais en regard de Betty, il y a d'autres femmes dans la série qui ont des parcours beaucoup plus positifs. Mm-hmm. Hein, il peut y avoir celui de Peggy Olson, donc qui rentre comme simple secrétaire dans l'agence et qui finit par être conceptrice, rédactrice, elle aussi, et par remporter le morceau au détriment de certains de ses collaborateurs masculins. Et à se faire une vie, vraiment à prendre son destin en main. Elle a le courage de... Elle est enceinte, elle est mère célibataire, elle abandonne son enfant pour parce qu'elle ne peut pas l'élever alors qu'elle est catholique, elle est irlandaise d'origine. Donc vraiment, elle brave tous les interdits, mais elle mène son destin jusqu'au bout. Elle devient une femme brillante sur le plan professionnel. Et à ses côtés, il y a aussi ce personnage très remarquable de John, donc la secrétaire rousse très pulpeuse, très plantureuse, qui mène aussi bien sa barque, qui se fait avoir par tous les hommes qui la manipulent, parce qu'elle est très manipulable au début. Mais elle s'affirme, elle s'aguerrit, et elle finit par être elle aussi une businesswoman qui vit de manière indépendante.
Donc ce sont deux modèles d'une certaine forme de féminisme.
Oui, le féminisme est quand même très présent dans la série, alors que le mot n'est jamais prononcé, que personne n'est étendard d'aucune cause, mais les messages passent à travers ces personnages qui évoluent au fil de la décennie.
Ils sont quand même plutôt de droite quand même dans cette agence-là, ils sont pas très contents de l'élection de Kennedy.
Non, mais ils travaillent de toute façon pour des clients, c'est une agence de publicité, donc ils sont forcément du côté du capitalisme, ils peuvent pas être d'un autre côté, sinon ils mettent la clé sous la porte. Mais eux-mêmes vont subir quelques avanies, ils vont être rachetés par un groupe anglais, etc., etc. Et la gloire initiale va être aussi un peu ternie. Donc finalement, je pense qu'il vaut mieux pas utiliser les catégories françaises pour parler d'eux, mais ils sont eux-mêmes plus complexes qu'il n'y paraît.
Alors Peggy Olson, elle a été inspirée par une conceptrice rédactrice qui a vraiment existé, qui s'appelait Shirley Polyakov, et qui avait écrit ce slogan, resté célèbre, c'était pour une marque de colorant pour cheveux, qui disait « Le fait-elle ou pas, seul son coiffeur le sait ».
Ah oui, bah vous voyez, à côté d'elle, il y a d'autres personnages de la série qui sont inspirés par des vrais publicitaires. Par exemple, le patron qui s'appelle Cooper est inspiré par Ogilvy, hein, qui est un publicitaire très célèbre.
Qui a donné son nom à une grande société de publicité.
À une grande agence, et qui avait créé ce slogan pour la marque Volkswagen, et en particulier pour la coccinelle de Volkswagen, c'était « Think small ». Donc voilà, et puis il y en a un autre qui a inspiré Don Draper, qui s'appelle Draper Daniels, pour de vrai, et qui a été aussi un pubard américain. Très célèbre.
Zoubi zoubi zou, zoubi zoubi zou, zoubi zoubi zou, zoubi zou, zoubi zou. Mon Dieu qu'ils sont doux. Zoubi zoubi zou.
Et oui, parmi les femmes de Don Draper, il y en a plusieurs, hein, parce qu'il est non seulement marié avec Betty, mais on découvre aussi qu'il a une autre femme, parce que comme son identité n'est pas son identité, eh bien forcément, l'identité qu'il a lui-même subtilisée avait une vie propre avant, et donc cet homme mort dont il récupère le nom était marié.
Mais en fait, il a plein d'autres femmes extra-conjugales qui sont formidables, on se demande pourquoi il ne les épouse pas, pourquoi il épouse toujours les mauvaises.
Ah oui, bah pourquoi. Alors Betty, on en a parlé, Meghan Draper, celle qui va devenir Meghan Draper, celle qui chante Zoubi Zoubi Zoum, alors pas dans l'extrait qu'on vient d'entendre, puisque ça c'est l'extrait interprété par Gilliam Hills. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Nathalie Azoulay?
Ça va être encore une des victimes de Don Draper, c'est-à-dire que elle est secrétaire, elle est complètement dans le culte de ce directeur de la création qu'est Don Draper. Elle est très belle, elle est à moitié québécois, je crois, donc elle parle français dans le film, elle est bilingue. Donc ça donne lieu aussi à des échanges auxquels il n'accède pas quand elle parle avec sa mère, par exemple, c'est assez intéressant. Mais de la même façon que la précédente, elle est très vite malheureuse, son mariage n'est pas du tout une lune de miel durable, elle a des problèmes avec les enfants de Don, enfin bon, et bref, ça finira mal comme prévu.
Donc il n'y a pas de couple heureux dans Mad Men?
Aucun. En tout cas, là, j'essaye de me souvenir tout en vous parlant et je n'en vois pas.
Et les enfants, alors, comment sont-ils? Parce qu'il y a tout aussi, il y a aussi toute une importance de l'éducation des enfants et de comment est-ce qu'on interagit avec ces petits êtres qu'on ne respecte pas tellement à l'époque.
Oui, alors on commence par ne pas beaucoup interagir, hein, parce qu'ils sont plantés devant la télévision ou ils sont confiés à la nounou. Et il y a peu d'échanges entre les parents et les enfants. Quand Don rentre à des heures tardives de son agence, en général, il va les embrasser alors qu'ils dorment. Donc, les échanges sont relatifs. Parfois, lors d'une insomnie, il peut croiser sa fille dans la cuisine. Et ça donne lieu à un échange un peu plus intime que les autres. Alors, on sent qu'à la différence de Betty, il a beaucoup plus de tendresse pour ses enfants. Mmh. sans doute parce que il a été un enfant malheureux, comme on l'apprendra, et qu'il ne veut pas reproduire ce qu'il a vécu. Donc, il fait quelques efforts, mais ce sont des efforts qui sont quand même très très rares. Et la plupart du temps, les enfants sont livrés à eux-mêmes et assez solitaires et assez malheureux.
Et là, vous avez l'impression qu'il y a un vrai point de vue de Matthew Weiner sur comment on éduquait les enfants dans les années 60.
Certainement. J'imagine qu'il n'a pas inventé tout ça. Il ne dit jamais que ça correspond à l'enfance qu'il a eue. Je pense qu'il a eu une enfance plus heureuse que celle qu'il décrit dans la série. Mais il y a quand même...
Il parle un petit peu de son enfance à lui.
Alors, à travers, encore une fois, les détails qu'il a voulu reconstituer, on entend des choses sur son enfance, parce que c'était des détails d'objets qu'il manipulait quand il était enfant. Par exemple, les paquets, les papiers sulfurisés qui entourent les sandwichs, il faisait une fixation là-dessus, il a exigé que ce soit le même papier que celui qu'il avait connu, etc., etc. Donc, il avait envie de retrouver des sensations d'enfance qui avaient dû être très marquantes pour lui. Mais je ne l'ai pas entendu parler plus largement de tout ça. Mais c'est vrai que les enfants, ils sont laissés pour compte, mais ça évolue au fur et à mesure de la décennie. Il y a des psys qui vont entrer en ligne de compte, c'est-à-dire qu'on fait de plus en plus cas des enfants, et même Betty, dans son second mariage, va être plus attentive à la vie de ses enfants.
Oui. Alors, mariage après mariage, Betty découvre aussi une sexualité différente, avec un homme différent. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on parle davantage que dans d'autres séries de la sexualité, et en particulier de la sexualité des femmes ?
On voit beaucoup de scènes de lit. Alors, en général, avant, après, on ne voit pas beaucoup de choses pendant. Donc la sexualité, je dirais que non, je ne la verrais pas d'une manière tellement différente, si ce n'est pour ces héroïnes féminines que sont Peggy ou John, qui ont des vies sexuelles assez remplies et qui ne se font pas avoir par les princes charmants qu'elles croisent et qui diraient n'importe quoi pour les garder. Donc la sexualité, si au départ elle est une façon d'exister quand on est une femme, très vite elle est reléguée au rang des manipulations possibles et elle s'en dégage, en fait.
Il faut préciser que la pilule est légalisée aux États-Unis en 1960, que le féminisme, c'est quand même assez actif à ce moment-là aux États-Unis. Évidemment, on ne peut s'empêcher de comparer avec l'époque actuelle où, avec Trump notamment, il y a une idéologie qui semble moins progressiste, pour reprendre ce genre de terminologie. Est-ce que ça vous a choqué, vous, cette idée qu'il y aurait peut-être un cycle qui était en train de se refermer avec Trump aujourd'hui ?
Je préfère ne pas le croire, mais je revoyais un épisode où, par exemple, Peggy va se faire prescrire la pilule par le médecin, et c'était vraiment pas gagné, hein, même dans les années 60. Et il lui dit, bon, je te la prescris, mais ne va pas devenir une fille facile. Donc il lui dit ça avec une menace, et en l'humiliant finalement, en lui donnant la pilule, mais en l'humiliant en même temps. Donc le combat n'était vraiment pas gagné à ce moment-là, donc ça a été... Non, mais on ne va pas perdre ces combats-là.
Et l'homosexualité, elle est présente aussi dans la série.
Oui, il y a un des personnages qui s'appelle Salvatore, qui est italien et qui ne fait pas du tout de coming out. Mais c'est Don Draper qui un jour va se rendre compte qu'il est homosexuel puisqu'ils sont en déplacement ensemble. Et il y a une nuit à l'hôtel où il découvre des choses. Mais il gardera le secret, puisque c'est un homme du secret, de toute façon, ce Draper. Donc il garde aussi le secret des autres. Et finalement, je ne crois pas que le secret soit révélé aux yeux de toute l'agence. Mais on sent qu'il y a un tabou de plus. Donc cette société qui est en pleine voie de libéralisation, on la prend alors qu'elle n'est pas du tout libérée. Hein. Donc il y a des tas de progrès qui se font pendant les 7 saisons que dure la série.
Et c'est là où c'est une série sur le temps qui passe et sur l'évolution précisément de ce qui se passe dans la tête des personnages.
Oui, c'est une série qui a vraiment une dimension sociétale très forte, mais qui le fait avec beaucoup d'habileté parce qu'elle prend le temps des personnages. Elle n'impose pas les messages, mais elle voit des personnages se dérouler et se développer dans le temps et traverser des épreuves qui vont les transformer.
Alors il faut dire aussi que parmi les 9 scénaristes, il y en a 7 qui sont des femmes. Est-ce que vous pensez que d'une manière ou d'une autre, ça a pu jouer ?
Alors le showrunner, donc Matthew Weiner, n'arrête pas de se vanter du fait qu'il a travaillé avec beaucoup de femmes. J'imagine que ça avait de la valeur pour lui parce qu'il avait des personnages féminins très riches et très présents à nourrir et que les expériences et les idées de ces femmes pouvaient l'aider. Je ne sais pas si je ne veux pas tomber dans le panneau en disant que la série est très psychologique, elle est très centrée sur les relations humaines et que pour ça les femmes sont meilleures. Je ne veux pas tomber dans ce panneau alors que sans doute dans le bureau des légendes l'essentiel des scénaristes sont des hommes. J'espère que ce n'est pas vrai. Je ne suis pas assez au courant pour m'avancer sur le bureau des légendes, mais j'espère que ce n'est pas vrai, que c'est un peu le hasard des circonstances.
Peut-être que ce qu'on peut faire, c'est citer l'une des scénaristes que vous citez vous-même dans votre livre. Elle s'appelle Maria Jackmitton et elle dit « Je ne crois pas que la prédominance des femmes influence la manière dont on écrit pour les personnages féminins de la série, mais ça nous permet de puiser dans un vivier d'expériences intéressantes. Si l'équipe était majoritairement masculine, les réactions des personnages féminins seraient écrites du point de vue d'un homme, alors que dans notre équipe, on revient toujours à l'essentiel. Qu'est-ce qu'être réellement une femme? Et en effet, qu'est-ce qu'être réellement un être humain? C'est bien le sujet de Mad Men.
Oui, mais alors ça tombe bien que vous parliez de cette scénariste-là, parce qu'elle est mariée avec un scénariste et que tous les deux ont participé à la série. Donc c'était un travail de couple.
Merci beaucoup, Nathalie Azoulay. Je rappelle, Nathalie Azoulay, votre livre « Mad Men, un art de vivre », c'est aux éditions de La Martinière. On peut également signaler votre roman « Les spectateurs », paru celui-là en janvier dernier aux éditions POL. Cette émission a été rendue possible grâce à Laurence Genepin, Laurence Malonda, Stéphanie Vélin, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault et Alexandre Dang. Demain, troisième épisode consacré à cette fresque Mad Men. On parlera des musiques de la série et également des archives de la série toujours. Ce sera avec Ariane Hudley qui a pu les consulter à l'université d'Austin au Texas. Tout de suite, c'est la poésie que vous propose comme chaque jour Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour à tous. Nous lisons Les Ronces, paru au Castor Astral, livre de Cécile Coulon, dont nous tirons le poème Les Ronces. Aïe. À vrai dire, j'ai de la chance d'avoir un très bel avenir derrière moi. Oui, étant donné qu'on a tous un très moche futur devant nous et des pertes inconciliables, eh ben on va tous finir nostalgiques de l'avenir, un peu comme Cécile Coulon. Nous, le passé sera devant nous pour changer. Ça qui sera bon. Pardon. À vrai dire, j'ai la chance d'avoir un très bel avenir derrière moi, avec des grandes maisons, hautes, blanches, des toits d'ardoises et des nids de plumes d'oie sous les combles où des hommes et des femmes ont fait l'amour pour la première fois. D'abord avec des ombres, d'abord avec des fantômes, seul le bruit de la rivière arrive depuis la fenêtre ouverte. Dehors les branches, dehors les oiseaux, dehors le monde se retire le temps de nous laisser vivre, sans lui qui court à nos côtés, seul le bruit de l'orage arrive depuis la fenêtre ouverte. Laissons passer l'orage et précisons que Cécile Coulon est née en 1990 en Auvergne, à Clermont-Ferrand, ville qu'elle habite et qu'il habite encore aujourd'hui. Quand les amants ferment les yeux, ils croient voir la mer où ils sont nés. Ils croient voir les volcans cracher des morceaux d'eux-mêmes, trop brûlants pour qu'ils puissent s'en emparer. Quand les amants ferment les yeux, seul le bruit du cœur qui bat arrive depuis les bras ouverts. Le cœur continue, lui. Le corps continue, lui, si fort pourtant infime au milieu du courant, les ancêtres sont passés là avant. Nous sommes des nains sur des épaules de géants. Écoutez bien, des nains sur des épaules de géants. Seul le bruit du vent dans les collines arrive. Plus loin, seul le bruit des heures qui s'en vont arrive. Depuis la fenêtre ouverte, je ne m'en fais pas. Je suis en train de creuser des terriers dans ma vie pour te faire de la place, pour que tu puisses venir fermer les yeux, oublier le sang de ceux qui vont partir bientôt. Le sang continue, lui. L'orage continue, lui, de balayer la terre et les oiseaux. Je vais apprendre à rester là si tu m'aides à m'asseoir, écouter la musique des flammes. Tendre la bouche comme on tend l'eau à l'enfant qui veut boire. La soif continue, elle. La langue continue, elle, d'effleurer d'autres langues pour meubler la mémoire. Seul le bruit du feu qui crache arrive depuis la porte ouverte. Je cesserai d'écrire des poèmes le jour où l'on cessera de considérer les hommes sincères comme des hommes malades. En attendant, la rivière continue, elle, la pluie continue, elle. Demain matin, les ronces vont griffer les renards dans les bois. Le ciel, ce grand poumon sauvage, a jeté ses filets sur les hommes tout en bas. Seul le bruit de la terre arrive depuis la fenêtre ouverte.
Merci Jacques Bonafé pour ces lectures de textes de Cécile Coulon.